7h42 et oui, vous avez été entendu, Catherine, nous allons effectivement entendre dans le son du jour un extrait, une composition de Georges Delerue. Il était né le 12 mars et il a confectionné l'une des plus belles bandes-sons du cinéma français. Les paroles sont de Jean-Luc Godard. On offre tout cela à ceux qui ont encore la chance d'être dans leur lit.
Je vois mes pieds dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolis?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
La musique de Georges Delerue, Le Mépris 1963, Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Nous allons maintenant évoquer un sujet beaucoup plus grave. Bertrand Badie, vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur des universités à Sciences Po. Vous avez notamment publié En quête d'alternative, l'état du monde 2018. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes des relations internationales en France. Et ce qui vous amène ici, c'est évidemment la situation en Syrie. Et pour comprendre la situation en Syrie, il se pourrait que le mépris ne soit pas complètement inutile, et notamment le rôle de l'humiliation qui joue évidemment un rôle important dans les relations humaines et aussi dans les relations internationales. Expliquez-nous pourquoi.
C'est hélas la grande découverte du temps qui est le nôtre. C'est-à-dire que l'humiliation a fait une entrée en force en relations internationales. D'un certain point de vue, enfin je voudrais éviter les transitions trop faciles, mais d'un certain point de vue, ce que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient, mais ce que nous vivons dans le Sahel également, dans le bassin du Congo, en Afghanistan, au Yémen, c'est la facture de un siècle, deux siècles d'humiliation. C'est-à-dire cette manière que les vieilles puissances ont acquise au fil des années, des décennies, de traiter les questions des autres, de se substituer à l'autre pour décider de tout et pour considérer que tout ce qui se passe dans le monde est sa propriété ou du moins est sous sa garde. Tout cela ajouté à une culture hiérarchique qui s'est construite au fil des expériences historiques, qui fait qu'il y a des États qui comptent plus que d'autres, évidemment, et surtout dans un siècle de communication généralisée, tout ceci est perçu, compris, entendu, reçu par ceux qui sont l'objet de ces humiliations. J'ai été très frappé l'autre jour d'entendre le président Macron à propos de cette bataille où s'étaient illustrés les contingents portugais pendant la Première Guerre mondiale, de dire « il ne faut plus de guerre à l'intérieur de l'Europe ». Oui, mais il y a le monde. Et pourquoi y aurait-il des guerres ailleurs? Et pourquoi l'Europe devrait se distinguer? Nous avons beaucoup de mal à comprendre que nous ne sommes plus seuls au monde.
L'humiliation, c'est l'une des conséquences de ce qui fait se mouvoir les différentes forces en présence en Syrie. Notamment, on a dit que sur ce lieu, il y avait les conséquences de l'humiliation des sunnites qui, aujourd'hui, tentent de reprendre le contrôle de leur destin. On voit aujourd'hui, en tout cas, que la situation est devenue extraordinairement compliquée du fait des forces locales en présence et de l'implication, évidemment, de Moscou et de Washington sur ce terrain. Voilà.
Oui, parce que tout se passe à deux niveaux et en fait maintenant à trois niveaux. Vous parliez d'humiliation, il y a l'humiliation du Syrien par un régime autoritaire, dictatorial et sanguinaire, et qui ne les écoute pas, qui les méprise, n'est-ce pas? Et puis il y a l'humiliation des Syriens en général et de la Syrie en tant qu'État, en tant que collectivité, par un système international qui considère que celle-ci n'est pas en mesure de gérer ses propres affaires et que c'est la tutelle des vieilles puissances qui doit décider de son sort, alors que les vieilles puissances sont quand même en partie aussi responsables de cet enchevêtrement incroyable de force, de ressentiment et de mobilisation. Nous sommes face à une guerre à deux niveaux. Le niveau national, c'était la guerre civile, c'était la révolution syrienne au départ en 2011. Et puis, cette guerre s'est régionalisée, le rôle des acteurs régionaux, l'Arabie Saoudite, la Turquie, Israël, l'Iran. Et maintenant, le risque, c'est qu'elle s'internationalise, c'est-à-dire nous sommes dans une guerre à trois états.
Alors c'est effectivement ce risque-là qui est souligné, avec une possible intervention américaine, on va en reparler, avec le fait que Moscou protège Assad face à des frappes éventuelles, mais il y a quelques jours, il me semble qu'il y a eu des frappes sur un aéroport, des frappes prêtées à Israël, sur un aéroport syrien. Hier, Benjamin Netanyahou a parlé à Vladimir Poutine et cela a été peu commenté. Dites-nous quelles sont les clés de ce qu'ils ont pu se dire et pourquoi finalement Vladimir Poutine n'a-t-il pas réagi contre Israël ?
Alors vous avez tout à fait raison. L'action, la frappe menée par Israël sur la Syrie a été comme tolérée par le tuteur russe. Comme si, justement, dans ces guerres à étages dont on parlait tout à l'heure, ce qui se passe au premier étage n'intéresse pas ceux qui vivent au troisième étage. En fait, la Russie est en Syrie en partie, pas totalement, mais en partie pour revenir sur la scène internationale et pour contrer les États-Unis. Donc c'est la réaction des États-Unis qui l'intéresse au premier chef. Israël est considéré comme un acteur local, donc effectivement l'impact d'action militaire est considéré comme moindre. De même que l'action militaire d'Israël à Gaza, où finalement la communauté internationale, ou soi-disant elle, n'a absolument pas réagi. S'ajoute un deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les relations entre Moscou et Tel Aviv ne sont plus les relations antagoniques d'affrontement qu'elles étaient du temps de la bipolarité et de la guerre froide, du temps des guerres de 67 et 73, où l'alignement de Moscou sur les pays arabes était, et les régimes arabes étaient total. Là, il y a de bonnes relations. Il y a de bonnes relations entre la Russie et Israël, et effectivement, il y a une sorte de gentleman agreement.
Mais alors c'est quand même pas évident, parce que avec votre métaphore des étages, donc on sait que dans cette région, région compliquée, l'idée qui consiste à dire que les amis de nos amis sont nos amis est une idée fausse. Et le jeu d'alliance ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc il y a, et c'est officiel depuis la semaine dernière, un axe entre Riyad, l'Arabie Saoudite, et Israël. Et cependant, Moscou, qui là a conclu une alliance de manière officielle avec l'Iran, considère qu'Israël n'est pas un pays potentiellement hostile.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, l'alignement des planètes auquel vous faisiez allusion il y a un instant est un paramètre très fort de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que cet axe Riyad-Tel Aviv-Washington qui prend de la chair, enfin qui n'est plus une supposition, qui maintenant entre dans le concret et dans l'explicite. Il y a eu encore des déclarations du prince héritier saoudien qui vont dans ce sens. Cet axe-là est quelque chose qui d'abord révolutionne la région, qui il y a quelques années aurait pensé une chose pareille, et qui donne le sentiment à ceux qui sont les nostalgiques d'une politique de puissance que cette coalition est nécessairement gagnante. Israël, seule puissance nucléaire de la région, supériorité militaire déjà démontrée, l'Arabie Saoudite, la grande puissance économique et financière de la région et aussi religieuse, quand même les lieux saints qui se trouvent sur son sol, et les États-Unis superpuissance, hyperpuissance, ça ne peut être qu'une coalition gagnante. Alors, il ne faudrait pas que cette coalition gagnante donne à ceux qui en font partie le sentiment de l'impunité, de l'invincibilité et les conduise à l'imprudence. Mais il ne faudrait pas non plus, parce que c'est l'autre dimension du sujet, que cette coalition se dote d'objectifs qui pourrait complètement bouleverser la donne, notamment en considérant que le véritable ennemi dans la région, ce n'est plus Monsieur Assad, dont d'ailleurs, effectivement, on ne parle plus beaucoup dans les chancelleries, mais l'Iran. Et qu'il n'y ait pas, derrière la crise qui se profile actuellement autour de l'idée de frappe en Syrie, la volonté de mettre en place qui serait la première étape d'un remue-ménage de l'ensemble de la région visant à exclure ou à marginaliser par la force l'Iran. C'est le rêve saoudien, c'est le rêve israélien. Et puis, c'est aussi le rêve trumpien. Donc, effectivement, peut-être est-ce plus important en arrière-plan que ne l'est le bombardement chimique, dont il ne faut pas oublier que c'est probablement, d'après ce que nous disent les ONG, le 85e. Pourquoi le 85e enclenche tellement de nervosité par rapport aux 84 précédents ? C'est donc une hypothèse à ne pas écarter.
On reviendra là-dessus, mais auparavant, l'ONU déclare que la situation pourrait devenir hors de contrôle. Elle pourrait devenir hors de contrôle si Donald Trump met à exécution sa menace donc de lancer des missiles beaux et intelligents, je cite le terme de Donald Trump, sur la Syrie. L'ambassadeur russe au Liban menace quant à lui d'abattre les missiles que Trump promet de lancer. La situation pourrait-elle devenir hors de contrôle véritablement, Bertrand Badi?
Oui, pour deux raisons. La première, le tempérament de M. Trump, qui ressemble beaucoup au docteur Follamour. Enfin, les beaux missiles, ça fait penser à ce film terrible. Le grand problème de ce monsieur, c'est qu'il est prisonnier de sa rhétorique. Quand on est le chef de la principale puissance au monde, tout ce qu'il dit vous est compté. Et si ce chef de la première puissance mondiale ne fait pas ce qu'il dit, il perd de sa crédibilité. Alors avec toute l'accumulation rhétorique que nous lui connaissons, notamment à propos de la Syrie, mais c'est un peu la même chose à propos de la Corée du Nord, si les choses viennent à s'aggraver, il risque d'être prisonnier de ce qu'il a annoncé et de ce qu'il a promis. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je reprends ma métaphore de la guerre à étages. Lorsque vous faites la guerre à un étage, vous n'êtes jamais sûr à 100% de ne pas toucher les autres étages. Et si vous voulez, comme le président Macron l'a rappelé récemment, ne toucher que des objectifs syriens, c'est-à-dire agir au rez-de-chaussée, si vous voulez, qui vous dit que l'un des éclats n'atteindra pas le premier ou le deuxième étage, là où réside l'ours russe. Donc, le danger est réel. Alors, il y a toute une codification des relations internationales qui permet quand même de se prémunir de ce danger. Mais ce qui me fait peur, c'est que M. Trump n'est pas véritablement en situation de maîtriser cette codification internationale. M. Trump, ce n'est évidemment pas Barack Obama, hélas, mais ce n'est même pas George W. Bush. George W. Bush était un néoconservateur, mais qui connaissait les codes internationaux. Là, on a l'impression, alors ce n'est peut-être qu'une impression, ce n'est peut-être qu'un effet de langage, que ce monsieur ne connaît pas les codes des relations internationales. C'est pour ça que j'ai toujours considéré qu'il était dangereux.
Mais lorsqu'on essaye de voir dans le passé si l'on a des épisodes qui pourraient éclairer ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a eu la crise des missiles de Cuba, il y a un certain nombre de lieux et de dates dans le monde où la guerre froide a menacé de devenir une guerre chaude. Est-ce qu'aujourd'hui on est véritablement dans cette situation-là? Quels sont les enseignements du passé qui peuvent éclairer aujourd'hui, Bertrand Badi?
Non, justement, c'est tout à fait différent. La crise de Cuba en 1962, c'était la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire la démonstration qui, maintenant avec le recul du temps, on sait, était presque imparable, que la menace réciproque du feu nucléaire allait annuler le risque de guerre. Donc, à l'époque, on ne le savait pas. Je me rappelle, j'avais 12 ans à l'époque. On avait très peur. Mais on avait tort d'avoir peur parce que on a vu au fil du temps que la dissuasion nucléaire était parfaitement maîtrisée. Et d'ailleurs, ça s'est reproduit plusieurs fois à moins de degrés, notamment au moment de la guerre de 1973, l'alerte nucléaire déclenchée par Nixon le 23 octobre 1973. Le système fonctionnait. Aujourd'hui, nous sommes dans un système international qui a un certain nombre de codes, je le disais tout à l'heure, mais qui n'a plus de logique de dissuasion de cette même nature. Alors, ce qui est mieux, c'est qu'on n'est pas au bord du conflit nucléaire, ou alors là, il faudrait un enchaînement incroyable de circonstances pour y parvenir, mais en revanche, on est davantage proche d'une guerre, sinon classique, du moins, je dirais, d'une guerre d'accrochage entre deux grandes puissances militaires. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Et M. Gutiérrez a tout à fait raison de tirer l'attention là-dessus.
Autre épisode du passé, la crise de Suez. Est-ce que là, on était précisément dans une guerre à étages? Peut-être en rappeler en quelques mots, Bertrand Badi, ce qui se déroulait là-bas et voir dans quelle mesure, là aussi, dans cet Orient compliqué, eh bien la comparaison peut aider à y voir plus clair.
Oui, enfin, la guerre de Suez, c'est encore autre chose, parce que, en fait, la guerre de Suez, c'était une guerre de décolonisation, c'est-à-dire la décision, rappelez-vous, de Nasser de nationaliser le canal de Suez, la réplique franco-britannique à cette action d'émancipation, c'était les derniers soubresauts, en quelque sorte, d'une tutelle coloniale ou néocoloniale, il n'y avait pas vraiment de colonisation au sens strict du terme en Égypte, mais en tous les cas, une sorte de tutorat qui résistait à se défaire, et qui a été très sévèrement condamné par l'URSS et les États-Unis, qui étaient déjà dans un épisode plus avancé des relations internationales, puisque on entrait dans le contexte de l'affrontement Est-Ouest, qui n'a pas suivi. C'est-à-dire que dans le cas de Suez, l'affrontement entre les franco-britanniques d'un côté et l'Égypte de l'autre, franco-britannique appuyé par Israël d'autre part, n'a pas été transformé en affrontement Est-Ouest, et États-Unis et URSS, à l'époque, s'étaient tacitement ligués pour empêcher la coalition franco-britannique d'aller plus loin.
Des provocations russes, il y en a. Il y a notamment l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, qui est aujourd'hui considéré de l'avis de tous comme étant une frappe directe du Kremlin sur cet espion, cet agent double. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière que le Kremlin a choisi de montrer sa puissance, puisque c'est quelque chose de signé, qui mériterait peut-être qu'on réplique ?
J'aurais presque tendance à revenir encore à notre affaire du mépris. C'est-à-dire que la Russie, qui n'était plus l'URSS, a été brutalement exclu du jeu international en 1989-91. Et nous avons eu toute la décennie Yeltsin, qui était une décennie de marginalisation, qui a créé une très forte crispation à l'intérieur du système politique russe, qui s'est reconstituée autour de Poutine à partir de cette volonté de revenir comme puissance. C'est d'ailleurs là que l'on comprend bien ce qui aurait pu être l'axe Poutine-Trump. Leur idée était la même, c'est-à-dire revenir dans le jeu international, parce que se considérant comme étant départi de son lot de puissance auquel l'un et l'autre aspiraient. Donc effectivement, la Russie fait tout en ce moment pour montrer qu'elle existe sur la scène internationale, pour montrer qu'elle est dotée d'une puissance réelle et qu'elle doit être respectée, et pour effectivement faire fonctionner, et ça marche, la fibre nationaliste à l'intérieur de la société russe. Jamais M. Poutine n'a atteint de telles courbes de popularité depuis qu'il fait le monsieur muscle de l'ethno-nationalisme russe. Bon, tout ceci est d'autant plus dangereux qu'on est passé à un deuxième stade maintenant, c'est-à-dire que les deux, Moscou et Washington, veulent montrer leur puissance et veulent que l'autre la montre un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il y a un risque réel de confrontation.
On va voir comment cette compétition pourrait ou non dégénérer en confrontation. Dans une vingtaine de minutes, Bertrand Badie, je rappelle que vous avez publié En quête d'alternative, l'état du monde 2018 aux éditions La Découverte. Vous serez rejoint dans quelques instants par l'historienne Annick Cizel, qui est spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Il est 8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez.